Bonjour à tous. Mon cœur déborde de joie. Ma femme et moi, on ne cesse de parler de vous parce qu'on vous aime. Et on sait que c'est le plan de Dieu pour nous d'être là avec vous. On ressent vraiment que c'est notre famille ici. Vous savez, on a parcouru beaucoup d'endroits. Mais je peux vous dire que je suis bien ici. Je ressens le cœur, je ressens la présence de Dieu, je ressens qu'il y a des cœurs qui... On est acceptés ici. L'évangile que nous transportons, on est acceptés ici. Vous savez, même chez nous, il n'y a pas beaucoup d'églises qui acceptent ce que le ministère apostolique emmène, le message de la croix de Christ. Mais ici, on peut dire qu'on est bien. C'est l'église du Seigneur. Amen. Je dis ça pour vous encourager. Hein? On a passé un moment merveilleux à louer le Seigneur. Ma femme a demandé votre cahier de cantiques, non? On a demandé ça. J'ai essayé d'enregistrer quelques-uns. Mais je peux passer toute la journée à adorer le Seigneur avec vous. Hein? Oui, je vous dis, c'est merveilleux de voir ce que le Seigneur fait. De voir la construction de l'église, de voir des cœurs, c'est vraiment merveilleux. Et ce matin, on va continuer. Je vais juste faire une petite récapitulation de ce qu'on a partagé, ce que le frère Jean a si bien résumé. Hein? La construction de l'église, l'église qui est le corps de Christ. La grâce qui nous emmène à répondre à l'appel de Dieu. L'amour. Cet appel qui est animé par cet amour de Dieu et la foi que Dieu met en nous pour le servir. Et j'étais arrivé juste en parlant de la relation, de quel esprit, quelle attitude d'humilité, de brisement qu'on sert le Seigneur. Et j'avais raté un verset, je vais juste le corriger, si vous le permettez. C'était dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 26, qui nous dit que « Comment parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, de puissants ou de nobles ?» Et cela se réfère aussi à 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 1. Paul dit « Mais je ne suis pas allé chez vous avec une supériorité de langage ou de sagesse humaine. » Mais il a voulu voir parmi eux Christ crucifié. Cela nous montre que la chair ne peut pas avoir part à l'œuvre de Dieu. La chair, notre propre sagesse, notre intelligence, nous avons besoin d'accepter qu'on a besoin de cette révélation de Christ en nous. C'est par cette révélation que Jésus bâtit son Église. Quand Christ est révélé dans notre cœur, l'esprit de l'Évangile, Quand l'esprit d'évangile saisit notre cœur, toute la Bible devient plus claire pour nous. On comprend pourquoi les apôtres ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont dit. Jésus dit, mais il est écrit au sujet de moi. Il dit comment les prophètes ont parlé de moi. De quoi est-ce qu'ils parlaient? Ils parlaient de Jésus, de son sacrifice et de son Église, de sa mort et de sa résurrection. Toute la Bible parle de cela, de Jésus. Si on enlève la croix de Christ, si on enlève son Église, si on enlève sa mort, sa résurrection, eh bien, il n'y a rien. Tout devient comme un voile, on ne voit rien. Mais la Bible parle de Jésus, de ce qu'il est venu accomplir et de son épouse. Alléluia. C'est merveilleux. Et c'est pourquoi, dans ces quelques jours, on parle de servir le Seigneur. Et ce matin, on va définir un petit peu les dons de motivation. C'est qui nous emmène à servir le Seigneur selon ce que l'apôtre Paul nous parle ici dans Romains, le chapitre 12. Donc, on va faire souvent référence. On a bien établi les bases. Paul établit bien comment la vie chrétienne, ben, c'est une vie de consécration, c'est une vie où on se met au service de la gloire de Dieu. Et pour parler de ces dons, on a besoin de comprendre et de voir un petit peu, si nous lisons bien la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a plusieurs catégories de dons. Il y a trois catégories de dons dans lesquelles on peut servir le Seigneur. Et la Bible nous parle de... Il y a les dons ministères de Éphésiens 4, 11. Si on peut juste lire cela. Des hommes que Dieu donne à l'Église dans la construction. Nous nous souvenons comment, quand Jésus a commencé à construire, il a appelé ses 12 apôtres, n'est-ce pas? 12 hommes et 12 apôtres. Et là, dans Éphésiens 4, 11, on revoit et il nous dit comment il est descendu et il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les hommes comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Son Église, n'est-ce pas? En vue de l'édification, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but que le Seigneur nous donne les hommes. Et le verset 8 nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Merveilleux. La structure de l'Église, la manière que Jésus construit. Dieu construit avec les hommes qu'il a choisis. C'est pourquoi quand Paul vient, il ne vient pas avec la sagesse humaine, avec tout cela, mais il vient avec la grâce de Dieu, parce que Dieu lui a fait une grâce de l'envoyer et de l'établir comme apôtre. Ce n'était pas quelqu'un qui est allé étudier quelque part et revient, et on lui impose les mains, et voilà, il vient comme un apôtre. C'est un appel, c'est un don, c'est un choix. Il y a des outils, des instruments que Dieu utilise. Dieu a utilisé Moïse. Il y avait une onction, il y avait une autorité. Et maintenant, Jésus construit l'Église dans la Nouvelle Alliance. Il dit, je bâtirai mon Église. Et il dit, il fait des dons aux hommes. Si nous voulons voir l'Église parvenir à la maturité, si nous voulons voir réellement l'Église parvenir à l'unité de la foi, nous voulons voir l'Église être construite, il faut que ça soit fait à la manière que Jésus a déjà prévue. Amen. Des hommes, pas des hommes qui se proclament, mais des hommes que Dieu lui-même a choisi, a établi, a formé, a équipé pour envoyer, pour donner à l'Église. N'est-ce pas? Ça, c'est la première catégorie des dons. On voit une autre catégorie des dons à l'Église. C'est ce qu'on va étudier ici, les dons de motivation, les sept dons de motivation qu'on voit dans Romains, le chapitre 12, le verset 6 à 8, qu'on va parcourir. C'est ça? Et il y a aussi une troisième catégorie des dons, c'est les dons du Saint-Esprit. Ce sont les dons du Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit, l'Esprit qui distribue ses dons comme lui il veut. Cela se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 11, n'est-ce pas? On va pouvoir lire tout ça après. Je crois que c'est juste pour, en ce qui concerne les saints ministères, on a besoin de faire un séminaire spécialement pour cela. Et concernant même les dons du Saint-Esprit. Mais là, ce qu'on veut nous attarder ici, ce sont les dons de motivation. C'est juste que je veux juste lire cela avec vous. Concernant les dons du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 11, qui nous dit, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Et là, il parle de diversité de dons. Les 9 dons du Saint-Esprit. Qui parle ici de... Il dit, en effet, à l'un, le verset 8, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, il y a le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. C'est le même esprit. Et ça, le Saint-Esprit distribue cela comme lui, il veut. Il choisit le moment et il se manifeste et on opère dans ses dons. OK? Mais là, maintenant, on va voir ici les 7 dons de motivation. Ce serait bien qu'on puisse ensemble ouvrir notre Bible, toujours garder notre Bible dans Romains, le chapitre 12. On a bien lu le verset 3 qui nous parle de « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Il nous parle de l'unité de tous les membres. C'est de cette façon qu'on va exercer ses dons. Et le verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. » Le verset 7, « Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Nous voyons là, il y a diversité, il y a plusieurs dons ici qui vont animer le chrétien. Le mot motivation n'est pas mentionné ici, mais il est décrit par Paul, la manière que les membres du corps de Christ vont opérer. Et ici, quand il parle de prophétie, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Ici, c'est la motivation prophétique qui emmène quelqu'un à agir d'une manière pour percevoir, pour voir les choses en réalité. C'est une intuition qui emmène à discerner les gens et leurs programmes, ce qu'ils font, leur motivation, s'il y a le péché. Hein, et toutes ces choses viennent dans la personnalité de la personne parce qu'il est animé pour agir de cette manière. Il vient dire la vérité. Nous allons rentrer en détail un par un dans tous ces dons. Et il parle de que celui qui est appelé au ministère. Le mot ministère ici parle de service. Servir, cela nous parle de répondre aux besoins pratiques, d'aider, d'assister. On voit beaucoup d'exemples dans la Bible, qu'on va rentrer en détail après. C'est le service pratique. Et il parle aussi que celui qui a le don... que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Il parle ici de clarifier la vérité, la capacité de transmettre aux autres la connaissance à travers la parole de Dieu. Et ce n'est pas l'enseignement qui vient comme le ministère de l'enseignant. On va faire la différence entre les 5 dons ministères, les 7 dons de motivation, et puis il y a les 9 dons du Saint-Esprit. Ici, ce sont des habiletés que Dieu met dans la personnalité de quelqu'un quand il est né de nouveau. Il a la nature de Dieu en lui et il y a quelque chose qui le pousse quand il veut participer à la construction de l'Église. Il y a certaines choses qui l'animent et qui viennent en lui et qu'il a besoin de vivre ces choses et s'exprimer par rapport au talent, au don que Dieu lui donne. Que celui qui exhorte, il nous parle de l'exhortation. Cela veut dire ici... un don à encourager quelqu'un à progresser. Il a toujours des paroles d'encouragement dans l'Église. Hein? Il stimule la foi et il emmène les gens à grandir. Il est là quand les gens passent dans l'épreuve. Ça peut être un frère, une sœur, peu importe. Hein? Et il est motivé comme cela. On va rentrer en détail dans tout cela. Hein? Il nous parle aussi de libéralité, c'est-à-dire celui qui a un désir constant et l'habilité de donner généreusement dans le royaume, et il emmène les autres aussi à faire de même. Ce sont des hommes, on est tous appelés à donner, mais on va voir que ceux qui sont animés comme cela, Dieu met dans leurs mains et ils sont toujours prêts à pouvoir à donner pour l'œuvre de Dieu. Quand on est tous appelés à donner, à être libéral, n'est-ce pas? Et il nous parle ici aussi, à la fin du verset 8, il dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Le mot présider ici peut parler aussi de diriger, d'administrer, d'organiser, de coordonner les programmes et les activités des autres pour atteindre les objectifs communs. Je suis sûr qu'il y a dû avoir un peu de don d'administration ici pour pouvoir diriger les opérations, faire que nous soyons tous bien là avec la clim, et bien assis, organisés, tout cela. On a besoin des gens comme ça dans l'Église, n'est-ce pas? Parce que dans la construction de l'Église, il y a les choses pratiques, Hein? Il y a les choses qui touchent au cœur des gens et Dieu a disposé dans son corps tous ces éléments pour que l'Église fonctionne bien. C'est merveilleux. Hein? Et à la fin, non pas le moindre, la miséricorde. Hein? Il dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est-à-dire la compassion, c'est quelqu'un qui est animé par cela, quoi qu'on est tous appelés à aimer, à avoir la compassion, mais c'est quelqu'un qui est animé spécialement en cela et il va identifier tous ceux qui sont dans la détresse, les personnes malades, les personnes qui sont blessées, les personnes qui ont besoin d'amour et ils seront toujours là, les personnes âgées. Ce sont des personnes dans l'église qui vont venir descendre jusqu'au bas pour gagner le cœur et pour faire ressentir l'amour de Jésus. Toutes ces 9 dons, les 7 dons en activité dans l'Église. Et ces dons, c'est à la portée de chaque enfant de Dieu, chaque membre. Ce n'est pas comme les dons du Saint-Esprit que le Saint-Esprit donne comme il veut, mais quand on est né de nouveau, Dieu met cela en nous. Maintenant, il suffit de découvrir, et on le découvre dans l'Église. On le découvre, hein? Et on voit que, à travers les besoins, ce qui se passe autour de nous, que ces dons commencent à se manifester. Donc, on a fait la différence entre les saints ministères. L'apôtre, vous savez que Jésus, lui, je vous ai parlé de ça un petit peu, comment Jésus, il a touché à tous les ministères. Il était l'apôtre parfait. Il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Hein? Hébreux 3, verset 1er nous dit cela. Et la femme samaritaine a dit, mais je vois que tu es prophète, parce qu'il avait vu exactement où est la femme. La femme qui avait 5 hommes dans sa vie, et il dit, le dernier aussi n'est pas ton mari. Hein? Jésus est passé là, et par cette onction de prophète, il a pu dire à cette femme ce qui se passe dans sa vie, et lui manifester la grâce de Dieu. Et Jésus était le parfait évangéliste, n'est-ce pas, venu apporter la bonne nouvelle. Et il est le bon berger, hein? le pasteur parfait. Il dit, je suis le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Et tous ces éléments se reflètent en nous quand on sert le Seigneur. Hein? Et il est, les chefs des synagogues, ils ont reconnu que, quelque part, que Jésus était un docteur venu de Dieu. Dans Jean le chapitre 3, c'est-à-dire celui qui a enseigné. Et il a enseigné avec autorité, non pas comme les scribes, mais il avait la présence de Dieu et la connaissance, il transmettait la voix de Dieu. Donc ça, tous les ministères et les dons sont simplement l'expression de Christ en nous, en tant que membres du corps de Christ. Quant à la manifestation du Saint-Esprit, c'est spontané. On a vu que c'est opéré comme le Saint-Esprit veut. Pour tous les chrétiens, il choisit. Donc, il faut noter que dans tous ces dons sont pour le corps. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour en profiter, pour faire tirer intérêt de cela. Les dons sont pour le corps, pour construire l'Église de Christ. Nous voyons dans Éphésiens 4, le verset 4, il nous parle des dons ministères et il nous dit « il y a un seul corps ». Allez voir. Il dit, il y a un seul corps. À chaque fois, vous allez voir, il parle d'un corps. Et quand il parle des dons de motivation, au verset 4, ici, hein, si nous voyons, il dit, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Donc, tous ces dons, c'est pour le corps de Christ, pour l'Église. Et concernant les dons spirituels, la même chose, 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 12, nous allons voir encore le mention de ce corps. Car comme le corps en est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, on voit que tous les dons, c'est pour l'Église. C'est pour bénéficier le corps, c'est pour faire épanouir, progresser le corps de Christ. Ce n'est pas pour se servir individuellement pour nous, mais c'est pour les autres, pour la maison, pour la famille de Dieu. Et quand on reste dans l'esprit de l'Évangile, on comprend et on a un désir de voir l'Église grandir et on donne sa vie pour cette cause. On met à la disposition de l'Église nos dons. Donc, la définition de ce don de motivation, maintenant que nous avons fait la différence, entre les trois catégories de dons, nous allons essayer de définir ces dons de motivation qui se trouvent ici dans Romains 12, le verset 3 à 10, on a lu. Donc, ces dons de motivation, ces dons, comme je dis, c'est ce qui nous fait agir dans une situation. On va agir différemment selon le besoin et l'appel qui est en nous dans une situation. Il y a une impulsion intérieure qui nous pousse à faire quelque chose vis-à-vis, par exemple, du péché. Quand tous ces dons sont en opération, tous ces membres, il y a une réaction, soit vis-à-vis du péché, soit vis-à-vis des besoins dans l'Église, soit vis-à-vis d'une situation où s'il y a une épreuve, il y a une manière que tous ceux qui sont appelés vont réagir dans ces situations. Il y a une motivation, il y a quelque chose qu'on va pouvoir exprimer dedans. Quand il y a le péché, quand il y a l'épreuve ou quand il y a un besoin, la motivation qui est en nous va agir. Et elle va expliquer pourquoi on fait les choses différemment, de cette manière. Et quand on comprend notre don, on va avoir de l'assurance, on va avoir plus de foi pour accepter et comprendre, mais voilà, c'est comme ça. Voilà pourquoi je réagis ainsi. Voilà pourquoi un tel réagit ainsi. Vous allez voir que quand il y a le péché, certains réagissent d'une manière bien tranquille. Chez nous, on dit ça cool. Tranquille. Hein? Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas sentir. Ils doivent dire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui les anime. Et on ne peut pas s'attendre à ce que tous, on agit de la même manière. Bien sûr, on va haïr le péché, mais il y a un qui va aller plus loin. Il va voir ce que Dieu voit dedans. Il va pouvoir emmener quelque chose de plus pour pouvoir construire la vie de cette personne. Et c'est à nous de faire de la place et de reconnaître cela. Souvent, par rapport à l'ignorance, on peut critiquer ou arriver à avoir une certaine résistance quand on ignore comment le corps fonctionne. Donc, quand nous sommes nés physiquement, nous avons des talents naturels différents et qu'on a hérité de nos parents. N'est-ce pas? Si un parent aime le foot, s'il y a le petit garçon, lui aussi, il va être influencé, il va aimer le foot. Il va faire des choses comme si hérité, c'est en lui. Alors, il voit ça comme exemple. Ça, ce sont des choses naturelles. Mais quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons nous aussi des dons différents. On a notre père, n'est-ce pas? On a un même père. Et lui, quand on est engendré, quand on a la vie de Dieu en nous, on a des dépôts en nous, des talents que Dieu nous a donnés maintenant, comme on a lu dans Éphésiens 2, n'est-ce pas? Comment il nous a choisis et afin que nous pratiquions les œuvres, n'est-ce pas? Qu'il a préparées d'avance. Et pour que nous pratiquions ces œuvres, il nous équipe. Il a mis en nous ses motivations. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu. Ce qui est merveilleux dedans, c'est que chaque enfant de Dieu a un don de motivation, au moins un, dans ce que nous avons lu là. J'espère qu'à la fin, on va se retrouver quelque part. Le Seigneur va nous aider. Et cela va se faire, ces dons s'opèrent selon la mesure de foi. Il se peut que dans l'Église, on a 10 personnes qui ont les mêmes dons de motivation, mais chacun va agir selon leur niveau de foi. Pourquoi il ne faut pas se comparer? Vous voyez, Dieu nous donne sa grâce. On peut tous participer ensemble dans la construction de l'Église, dans la vie des uns et des autres. Et de la même manière, je vous avais parlé l'autre jour des dons et des talents dans Matthieu. Comment il donne à l'un 5 talents, l'autre 10, l'autre 2. Et quand nous allons... Le jour où le Seigneur va nous récompenser. Je ne pense pas que le Seigneur va nous récompenser pour dire bien, combien de dons spirituels tu as manifesté, combien de démons tu as chassé, combien de malades tu as guéri. Mais on va rendre compte des dons que Dieu a mis en nous de motivation. On va rendre compte des talents, d'habilités que Dieu nous a donnés pour servir et pour mettre à la disposition de son Église. Et on sera récompensé de la manière qu'on a fait fructifier ces dons, ces talents que Dieu a mis en nous. Vous êtes toujours là. Quand on va définir tous ces dons et élaborer des dons, on va comprendre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'anime? Et c'est pourquoi je ne dois pas cacher ce que Dieu a mis en moi. Et je le mets à la disposition de l'Église pour la gloire du Seigneur, pour le bien et l'édification du corps de Christ. Et rappelez-vous que pour que ces dons puissent s'épanouir convenablement, Paul a déjà mis les bases. Et nous venons à comprendre notre fonction dans le corps de Christ quand nous sommes séparés réellement du monde et que nous ne sommes pas en train de conformer au monde avec un cœur pur. Parce qu'il ne faut pas avoir l'esprit du monde mélangé, même quand on va servir. Vous vous souvenez que quand il fallait servir à table, les hellénistes murmuraient et les apôtres ont dit, bon alors, cherchez parmi vous des hommes remplis de l'esprit, hein, de sagesse, et puis on va prier et ils vont faire ce travail. Juste pour servir à table, il fallait des hommes remplis de l'esprit, de sagesse, c'est-à-dire des hommes qui ont été connus du peuple. C'est le peuple qui les a choisis. Ils avaient une relation avec le corps de Christ. Ils étaient connus comme des hommes de l'Église qui servaient le peuple de Dieu, qui donnaient leur vie, qui aimaient l'Église. Et ce sont ces gens, ces sept personnes que l'Église a pris et mis devant les apôtres pour prier pour eux, les diacres. Voilà le choix. Et ils servaient. Hein? Ils étaient là pour venir servir. Et vous réalisez, si vous prenez des gens qui ne sont même pas réellement nés de nouveau, qui sont remplis de leur chair et qui vont venir servir, il y aura un peu de nourriture qui resteront chez eux. Il y aura toujours de l'injustice, il y aura toujours, vous savez, l'homme mélange. Et le Seigneur, dans sa sagesse, il demande aux apôtres de voilà, choisissez les hommes remplis de l'esprit et de sagesse, des hommes qui portent l'esprit de l'évangile, des hommes qui ne veulent pas jouer à l'église, mais qui aiment l'église et qui donnent leur vie et qui servent non pas pour leur gloire, non pas pour leur intérêt, mais pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Donc on voit un peu là l'esprit dans lequel les choses sont faites. Et le plus qu'on grandit, le plus qu'on laisse le Seigneur faire son œuvre en nous, le plus on devient plus libre et on n'est plus attaché à nous-mêmes, à notre égoïsme, mais on aime l'Église et on se donne comme un sacrifice vivant. C'est un parfum. Et on bénit l'Église. Et quand on sait, hein, on ne cherche rien dans notre intérêt, mais on s'épanouit de la manière qu'on se donne pour le royaume de Dieu. Alléluia. OK. Donc, il y a une croissance et un développement dans la manière qu'on va manifester nos talents. On grandit, on progresse. On découvre un don, on découvre ce que Dieu a mis en nous. Et dans l'Église même, en se mettant au service, qu'on développe cela et que cela grandit en nous. Hein? C'est pourquoi nous devons chercher à savoir quel est son appel en nous. C'est là la prière de Paul. Quand dans Éphésiens, hein, Paul dit, mais il prie pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Allons lire dans Éphésiens le chapitre 1er. OK? Le verset 16 à 18. La prière, comment Paul priait? Quel chapitre? Attends. Éphésiens le chapitre 1er. La prière pour recevoir la sagesse et la puissance pour pouvoir servir le Seigneur. Ça, c'est la manière que Paul priait. Il dit, mais c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de quoi? Votre amour. N'est-ce pas? Leur foi et leur amour pour tous les saints. Voilà, la première chose. Il a entendu parler de cela. Et il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, on voit son appel, on voit notre place. Paul prie pour que les chrétiens puissent comprendre cet appel, comprendre ce qui les attend. Parce que Dieu, il nous appelle et en même temps, il nous dit que il y a une richesse de la gloire à venir. Il y a une richesse de la gloire de son héritage. Dieu veut nous bénir, veut nous récompenser. Il veut... C'est son cœur pour nous. Il a payé un prix, il nous a rachetés, mais maintenant, il nous fait l'honneur d'être ses instruments en tant que membre de son corps, de le servir, et ensuite il vient nous récompenser. C'est pas merveilleux ça? L'apôtre Paul prie pour ça. Il prie pour que les chrétiens découvrent leur richesse, découvrent la grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir le servir sur cette terre ici-bas. Hein? Et qu'un jour, ben, il pourra dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle, en quoi? Avec tout ce qu'il nous a donné comme don. Pour pouvoir le mettre à la disposition de l'Église pour l'édification de son corps. Hein? Et dans Romains 12, le verset 2, il nous parle de renouvellement de l'intelligence. Paul dit ici, regardez ça, dans ce verset, je vais juste m'attarder un petit peu ici, là. Il dit, pour que vous, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières, pour qu'il vous donne un esprit de sagesse dans sa connaissance, qu'il illumine, le verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Pour que vous sachiez. Hein? Il y a donc là une révélation, il y a un renouvellement de notre intelligence pour qu'on puisse comprendre et connaître l'appel de Dieu dans notre vie. Ça doit être notre motivation pour chercher à comprendre, à connaître qu'est-ce que Dieu veut. Hein? Chercher la volonté de Dieu, chercher à répondre à cet appel. On ne doit pas être ignorant et un spectateur, mais on prend notre place et on cherche à savoir et on se met à la disposition de Dieu pour répondre à cet appel. Dites-moi un alléluia quand même. Je sais que vous êtes attentifs. Hein? Donc là, c'est excitant, c'est merveilleux de savoir qu'il y a un appel, la main de Dieu qui est tendue vers nous et que personne ne peut être oisif. Vous savez, c'est une mentalité religieuse que de simplement vouloir regarder. Mais je crois que quand on veut servir le Seigneur, on commence à répondre aux besoins qui sont autour de nous. On manifeste un cœur et c'est en commençant comme cela même que Dieu commence à dévoiler au plus en plus ce qu'il a besoin de faire en nous. Non? On se met à la disposition de l'Évangile. À la disposition. Moi, je me souviens que c'est vraiment extraordinaire. Du moment que j'ai reçu le Seigneur, c'est comme une voile qui est sortie. Et maintenant, la seule chose que je veux servir l'Église, je veux faire des choses. Dans les petites choses. On cherchait des gens à aller distribuer des invitations, je voulais être là. Je vois les gens aller prier quelque part, je vais être avec eux. Je rentre chez moi aussi, je vais servir dans la maison. Vous savez, il y a quelque chose qui m'anime. Dès que j'ai compris que ben, le Seigneur m'a appelé, il y a quelque chose, je veux faire quelque chose pour plaire à Dieu. Vous comprenez ça? Hein? C'est un signe pour quelqu'un quand il est réellement touché, né de nouveau. Il ne garde pas sa vie. Il découvre et il veut donner sa vie. Il veut connaître les gens. Il veut découvrir tout ce qu'il y a. Mais c'est la vie de Dieu en nous. Hein? Et vous savez, il y a un autre évangile qui amène les gens simplement venir à l'église pour attendre quand Dieu va me bénir. Hein? Quand Dieu va me donner, remplir ceci, remplir cela. Mais on perd de vue la richesse de son appel, de l'héritage qu'il a pour nous, de venir nous donner pour son plan à lui. Et de ne pas venir se servir de Dieu, se servir de la foi pour qu'on s'installe confortablement dans notre chair. Il y a des chrétiens des années, des années, des années, on leur a appris à avoir un autre agenda. De venir se remplir et gagner et grossir, grandir pour eux-mêmes, égoïstement. Non, l'appel de Dieu, il nous parle ici de venir nous offrir nous-mêmes afin qu'on remplisse la place que Dieu a voulu pour nous et qu'on réponde. C'est là qu'on va être satisfait. Vous savez pourquoi il y a des gens des chrétiens qui ne seront jamais satisfaits dans la vie chrétienne? Parce qu'on leur apprend à venir pour recevoir. On ne leur apprend pas à venir donner leur vie pour devenir ce que Dieu veut dans la maison de Dieu. Hmm? Ici, il s'agit ici de maturité, de grandir. Vous êtes dans la bonne place parce que vous entendez ces choses. Hein? Oui, je le sens. Je le sais. Hein? Et il faut continuer, il ne faut pas se laisser intimider. Il faut être encouragé de continuer parce que c'est ça l'appel de Dieu. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les choses qui vous, comme si pour essayer de prouver qu'on est spirituel. On n'a rien à prouver, on a besoin de donner sa vie et laisser Dieu nous emmener à répondre à son appel, n'est-ce pas? C'est ça l'évangile qu'on a reçu. Hein? On s'identifie à Christ, on perd notre vie. Et là, avec tout ce que Dieu met en nous, on s'épanouit. Et on s'intéresse au corps. Alléluia. Hein? On participe à la vie de l'Église. Hein? On se met à la disposition du Seigneur. On n'a pas un agenda égoïste. Hein? Et on se conforme au cœur que Jésus a pour l'Église, qui nous dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, vous n'avez même pas mendié ça. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais l'adversaire a voulu préoccuper l'Église en essayant de s'occuper de ses propres besoins avant le besoin du royaume. Hein? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ce sont les païens qui cherchent ces choses. Mais nous devons chercher ce qui nous emmène dans la gloire. Dans les bons moments, dans les mauvais moments. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, moi, ben, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Ça aussi, c'est spirituel, ça. Savoir comment vivre dans l'abondance, comment se tenir, et comment se tenir aussi dans la disette. Il n'y a pas de mal à ça, ce n'est pas un péché, ça. L'état de notre cœur qui est important, n'est-ce pas? De répondre à l'appel de Dieu. Que rien ne vienne entraver notre motivation pour servir le Seigneur dans n'importe quelle condition. Il y a une grande joie quand on se donne comme cela et qu'on voit le Seigneur se sert de nous pour sa gloire, mes frères et sœurs. C'est merveilleux. Hein? Ces dons de motivation sont là pour nous emmener à prendre notre place et voir l'Église grandir. Et si un membre ne fonctionne pas, on prive l'Église. On prive l'Église, mes frères et sœurs. Comment nous avons besoin de la lumière de l'Évangile aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de mensonges, de demi-vérités qui ont mené les chrétiens à croire qu'ils ont la foi. S'ils sont bien, s'ils ont ceci, s'ils ont cela. Hein? Mais où est notre richesse? Où est notre place dans le corps de Christ? Qu'est-ce qui nous anime dans le corps de Christ quand il y a des besoins autour de nous? Quel genre de prière nous prions? Allons examiner un petit peu la dernière fois. Qu'est-ce que nous avons demandé au Seigneur? Est-ce que nous cherchons son royaume? Est-ce que nous cherchons à pouvoir répondre à son appel concernant tout ce qu'il nous a donné, a mis à notre disposition? Est-ce qu'on est préoccupé par le besoin des églises, par l'état de l'église, par la maturité? Ce sont ces choses qui doivent nous préoccuper. L'avancement du royaume de Dieu. Et croyez-moi, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui sont des années dans l'église, mais qui sont des bébés, parce qu'ils ont appris que venir à l'église, exercer un petit peu de foi quand ça ne va pas, pour que Dieu comble toutes leurs lacunes, et c'est tout. Et ils sont contents quand ils reçoivent, c'est comme des enfants. On est content, Dieu nous fait quelque chose. Dieu est un Dieu de grâce, il nous donne. Ok, c'est bien, mais après, non? Qu'est-ce qui va nous rendre forts? Qu'est-ce qui nous a emmené à la maturité? Hein? C'est quand on se met à la disposition de l'Évangile et qu'on cherche à participer dans l'avancement du royaume de Dieu. Et qu'on permet au Seigneur, dans cette marche, à travers l'œuvre de sa croix en nous, de nous façonner, de nous former, de nous briser, de nous équiper, de nous corriger quand il faut. Tout ça forme partie de notre épanouissement. Parce que quand on a un talent, on a toutes ces choses, ben, on a besoin que Dieu nous émonde. C'est comme cela que dans l'évangile de Jean, il nous parle comment le Père, le Seigneur veut nous émonder, nous tailler, afin que nous portions plus de fruits. Non? Et cela nous parle ici de l'œuvre de Dieu en nous. Hein? On veut servir le Seigneur, mais on va servir le Seigneur en ligne avec la manière qu'il nous prépare, qu'il nous équipe, qu'il nous émonde. J'aime planter, il y a des plantes chez moi, je réalise que quand je coupe un peu bien, et puis ça repousse mieux. Hein? Des fois, on croit qu'on est arrivé, Dieu a besoin de nous couper un petit peu, non? Nous corriger, nous arrêter un petit peu, mettre un peu d'ordre, et puis on continue, n'est-ce pas? Hein? C'est comme ça. Et on apprend à servir le Seigneur en communion fraternelle. Je ne m'enferme pas dans un coin et j'ai tous les dons et puis alléluia, mais où je vais exercer ça? C'est dans l'église, ce n'est pas dans ma chambre. Dans ma chambre, je communie avec Dieu, mais quand je viens, je communie avec mes frères et sœurs et être spirituel, c'est avoir une bonne relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. C'est ça être spirituel. Ce n'est pas seulement tout seul dans la montagne. Il faut descendre. Il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre à connaître les membres de ce corps. Vous réalisez, si mon bras, il est à part là-bas, sur un lit quelque part, et quelle vie qu'il aura, qu'elle aura, n'est-ce pas? Donc ma main doit s'attacher à mon corps pour pouvoir avoir la vie et pouvoir bénéficier. L'Église, c'est comme ça. Hein? La relation avec Dieu, et on réalise qu'on a besoin des uns et des autres. Ça enlève notre égoïsme, ça enlève notre orgueil, ça nous fait comprendre que c'est bien, je fonctionne d'une manière, mais j'ai besoin d'un autre encore, hein? Qui ne fonctionne pas comme moi, mais qui transporte la vie. Ça, c'est merveilleux. Hein? Réaliser qu'on a un membre, on n'a pas tout en nous, on a besoin des autres. Vous savez, je suis en train de me mettre debout là, vous êtes assis, mais il y a un petit membre au-dedans, là, ce cœur-là, là, qui bat, qui fait fonctionner mon sang, il fait tout cela. Je ne suis pas médecin, mais j'essaie de vous expliquer ça comme ça. Hein? Mais vous savez, bon, c'est un élément, c'est un organe important dans mon corps. Mais s'il se prétend tellement important qu'il n'a pas besoin de ma main, qu'il n'a pas besoin de rien, mais comment il va fonctionner si ma main ne met pas la nourriture dans ma bouche? À un moment donné, il va être en difficulté. Non? Il faudra que ma bouche commence à marcher et emmène la nourriture et que mon intestin travaille et que le sang arrive à faire rentrer dans ce cœur-là pour que ça fonctionne. Donc finalement, on a tous besoin des uns des autres quelque part. Il y a un moment dans notre vie où nous ne nous attendons pas qu'on aura besoin d'un membre ou de plusieurs membres pour venir apporter quelque chose en nous pour que nous puissions grandir. Ça, c'est l'Église. Ça, vous savez, quand on parle de l'Église, là, on parle de la manière que Dieu nous voit, on parle de tout cet assemblage, de tous ces dons et ces talents, hein, de notre présence dans l'esprit pour participer à la vie de Dieu en nous. Hein? Quand on est faible à un moment donné, quand on est découragé à un moment donné, on va voir dans ces dons de motivation, il y a celui qui encourage qui va venir. On a besoin d'une parole. Qui n'a pas besoin d'encouragement à un moment donné dans notre vie, non? On a besoin d'une parole, frère et soeur. On a beau être spirituel et prier dans notre chambre, c'est bien. Mais à un moment donné, Dieu qui nous a créés et qui construit son Église utilise nos frères et sœurs pour nous encourager. On ne va pas attendre tout le temps un ange venir nous encourager ou le Seigneur va tout le temps nous dire quoi faire. Non, il a un corps et il veut s'exprimer à travers ce corps. Le corps n'est pas inutile, le corps est actif, il faut savoir en profiter et faire profiter les autres aussi. C'est pourquoi l'Église primitive, ils étaient un, n'est-ce pas? Ils étaient ensemble, pas pour faire la fête comme le frère a dit, mais pour communier dans l'esprit, pour découvrir la valeur du corps, tout ce qu'il y a en nous. Les expériences d'un frère ou d'une sœur m'enrichissent. Quand j'écoute quelqu'un, peut-être il ne sait pas là où je travaille, j'entends sa conversation, son témoignage, ça m'enrichit. Ça me donne un peu plus de foi. Donc, il y a la prédication de la parole, il y a les ministères, les saints ministères, mais il y a aussi la part que chacun a pour nous, chacun qu'on a dans la vie des uns des autres. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas se priver de cette communion, il ne faut pas se priver de ce contact, cette relation avec les uns les autres. Parce que des fois, nous, on peut être égoïste et croire que ce qu'on a, ça c'est mieux. Mais on ignore de quelle manière Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Donc, c'est là que Paul est en train de venir avec l'Église. Je parlais ce matin à la maison et j'ai dit comment Paul, il dit comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Un architecte, il connaît tous les coins de la maison, n'est-ce pas? Il a le plan. Et l'apôtre Paul, Dieu lui avait donné cette sagesse pour savoir comment les chrétiens doivent se comporter. Il a écrit plus de lettres que tous les autres, n'est-ce pas? Que nous lisons, c'est Dieu dans sa sagesse qui a établi cet homme, n'est-ce pas? Et il a une connaissance quand il y avait du désordre. Hein? Qu'est-ce qui a manqué à cette église? Et donc, il nous parle de ses dons pour venir construire l'église. Hein? Et là, pour pouvoir être actif, on se met à la disposition des autres. On commence à servir les autres. Et là, Dieu commence à se révéler encore. C'est merveilleux de réaliser que quand on voit Étienne, on voit Philippe, on voit tous ces diacres qui servaient, ben, finalement, on voit que Philippe est devenu évangéliste. Non, il a développé d'autres choses. C'est en faisant des petites choses même que Dieu commence à nous donner des grandes choses. N'ayons pas des grandes ambitions. S'il y a un besoin près de toi, laisse ton cœur parler et fais ce qu'il faut. Dieu ajoutera encore. Hein? On n'a pas besoin d'aller prier 3 heures de temps pour que Dieu nous révèle ton appel. Mais quand tu vis avec l'Église, tu vas le savoir. Dieu te montrera des besoins. Ton cœur va parler, la vie qui est en toi va animer. Vous savez, un bébé, on n'a pas besoin de lui dire bois, il sait qu'il doit boire. Il sait ça, la boisson, il connaît, non? Donc, il y a des choses que Dieu met en nous, la vie de Dieu en nous. Quand Dieu nous place dans son corps, il y a cette vie qui s'anime quand il y a ces besoins-là autour de nous. Et là, on commence à s'épanouir. C'est pourquoi il faut aimer la communion fraternelle, aimer l'Église, aimer les choses de l'Esprit, aimer participer dans ce que Dieu fait. C'est là qu'on va pouvoir développer tout ce que Dieu a en nous et recevoir ce que Dieu a dans les autres. Hein? Alors l'Église devient une famille. L'Église ne devient pas un lieu religieux où on doit faire ceci, on doit faire cela. Non, on respire l'Église, on aime l'Église, on découvre les frères et sœurs. Alléluia. Ça fait quelques jours que je suis là, je commence à tomber amoureux de vous. Et j'ai dit au frère Jean, ben, j'aimerais bien aller chez ce frère, j'aimerais bien aller ici, j'aimerais bien... Ben, je découvre les dons, je découvre les talents, je découvre ce que Jésus fait. Ça me fait... J'ai pleuré de joie ce matin au nom du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu m'as mis au milieu d'une... Enfin, j'ai trouvé une famille. Ah, ici, il y avait un pont pour nous rassembler encore. Je ferai le va-et-vient. Aïe, 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 crois-moi, je vous dis. Là, je déborde d'excitation dans mon cœur d'aller expliquer un coup ce que je vois ici pour pouvoir encourager l'Église. Vous savez, ce n'est pas en vain. Ah, c'est merveilleux. Hein? De découvrir le corps de Christ, de découvrir ce que Jésus peut faire au milieu de nous. Ne laissons pas l'ennemi, le monde, nous aveugler, mais soyons humbles dans notre cœur et pleins de zèle pour découvrir ce que Jésus a pour son Église. Alléluia! Alléluia! Allez, on va faire un petit break. Après, on va continuer, d'accord? On va faire un petit break. Combien de minutes? 15 minutes? Comment? Allez, 15 minutes. Après, on va revenir.